Il veut bouger, mais ne peut pas. Un poil en empêche. Reste longuement ainsi. J'allais dire plusieurs jours. Mais pour lui, il n'y a pas de jour. Petit à petit, il sent ses forces lui venir et respire moins fortement. Le noir est moins intime. Les sens se reviennent d'une façon plus précise. Une chaleur lui envahit le corps. La douleur lui est plus précise. Il sent de plus en plus de force en lui. Le noir est de moins en moins noir. De plus en plus gris. Puis blanc. Blanc. Puis voit une image trouble vient et disparaît. Dans du blanc, puis cette image devient moins trouble et finit par se fixer. C'est une partie d'un lit d'hôpital en métal peint en blanc. C'est un bout de drap blanc. C'est un mur vert. Il ne peut pas décrire ce qu'il voit, mais il le comprend. Il reste comme ça, les yeux fixes. Son moi se met en place. Il peut se dire « Il faut que je me lève ». Il ne peut pas dire pourquoi, mais il peut se dire le besoin de se lever. C'est comme si son cerveau se remettait en marche. Alors, après avoir dit ça, il fait le geste de se lever. Une fois, deux fois, il retombe à chaque fois à la renverse et se dit qu'il est peut-être trop faible. Il recommence plusieurs fois et fait des gestes brusques. Il arrive à se soulever et à tomber du lit. En tombant, il a tout débranché. Il ne se rend compte de rien. À terre, pris de vertige et a des difficultés à se lever. Ferme les yeux et essaye de se maintenir d'une main sur le rebord du lit. Enfin, il y arrive, essoufflé, la tête qui tourne. C'est fou comme c'est haut un homme.
Ferme les yeux, respire, et va vers la sortie de la chambre. La porte, la poignée. La porte. Il fait le geste instinctif d'ouvrir la porte qui n'était pas fermée à clé. Souffle un peu.
Long couloir vert avec des néons au plafond. Il marche jusqu'à la porte du bout. Qui est un ascenseur. Il le prend. Son bruit résonne dans la tête. Il appuie au hasard sur le bouton du bas. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Il sort. Il se trouve dans un hall vide, avec des baies vitrées qui donnent dans la nuit.
Personne. Il sort de l'hôpital.
Il s'éloigne du parking et s'enfonce dans la nuit. Ses pas sont de moins en moins hésitants. Ses sensations sont de plus en plus précises. Mais il ne se dit pas qui il est et pourquoi il fait ça. Mais de plus en plus, quelque chose lui dit que c'est ça qu'il doit faire. Il marche pendant un long moment au hasard sur la route, puis voit une maison au fond d'un parc, une petite maison moderne toute blanche avec de grands baies vitrées. Il s'approche de cette maison, il n'y a pas de bruit. Regarde à travers les baies vitrées, voit un salon, une salle à manger moderne, une piscine intérieure, une cuisine. Va vers la porte d'entrée. Elle est fermée. Alors, avec une pierre, doucement, il brise la vitre.
Il enlève les morceaux brisés.
Une fois qu'il a enlevé les morceaux brisés, il passe la main pour ouvrir la porte
qui donne au salon. Il y arrive.
Heureusement que l'alarme est en panne. Il a ouvert la porte-fenêtre et il rentre. Il sait que ce qu'il a fait est mal. Sa conscience lui est revenue grâce à ce geste.
Une fois dans le salon, il regarde de partout. Sort de la pièce. Il y a un couloir avec un escalier de bois et une autre porte. Il va ouvrir la porte. C'est la cuisine. Va ouvrir le réfrigérateur. En sort une bouteille. Bouteille de lait. La prend avec lui. Il boit. Ça lui fait mal. À l'œsophage. Mais c'est bon. Après avoir bu, il se sent ballonné. Il voit sur la table de la cuisine
un couteau de cuisine. Le prend et sort de la cuisine.
les escaliers. Prends un petit couloir. Ouvre une porte. La chambre est vide. Une autre. Oh !
Une femme en chemise de nuit dans son lit qui vient de crier. Elle lui dit : qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Je savais que quelqu'un était entré. Il s'approche d'elle. Elle lui crie : laissez-moi tranquille. L'homme se penche vers elle d'un bond. D'une main, il la maintient et de l'autre, il lui enfonce le couteau dans la poitrine. Le couteau, bien aiguisé et bien entré dans la chair, sans difficulté. Le regard pétrifié de la femme est resté fixé pour l'éternité. Le sang a giclé sur le visage de l'homme.
Sors de la chambre. Et fais toutes les pièces. Ce sont des chambres vides. Enfin, une salle de bain. Il entre pour se nettoyer.
Il va au lavabo pour se nettoyer. Il ne comprend pas. Son visage est plein de bandelettes. Sort seul des trous, le bout du nez, la bouche et les yeux, est habillé d'une espèce de chemise de nuit en nylon vert pâle. Avec ses mains, il s'arrache les bandelettes du visage. Cela lui fait mal, mais il veut voir. Enfin, la tête est libérée. Là, il voit une tête ronde, boursouflée, avec des taches rouges, bleues. Le crâne rasé, et sur le haut du crâne, une très grande rougeur qui doit être une cicatrice. Il ne comprend pas. Le visage a l'air plus jeune qu'il ne s'imagine être. Il ne comprend pas ce qu'il est. Enlève la chemise et se trouve nous, beau corps mince et fin d'adolescent. Sans poils, juste aux parties viriles et peu. Petit sexe bien fait. Jambes minces et fines. Le corps n'a aucune cicatrice, mais a une couleur grise, terreuse. Par endroits bleutés. Mais de ce côté-là, il se sent mieux que dans sa tête. Il a envie de prendre un bain, entre dans la baignoire et fait couler l'eau. Il s'allonge et sent l'eau monter petit à petit. Ceci lui fait du bien et le détend. Puis, une fois que l'eau est tout immergée, il a un désir de sommeil. Ferme le robinet et s'endort. se réveille bien. L'eau est devenue froide. Cela lui donne le frisson. Il sort de l'eau, s'éponge avec une serviette qui traîne et sort de la salle de bain comme ça, nu. Il décide de chercher des vêtements. Il entre dans le champ et cherche dans les armoires. Trouve enfin ce qui semble mieux lui convenir avec son physique, en jeune. Une chemise à carreaux, un blouson de cuir marron, une casquette, pour cacher son crâne. Des sous-vêtements, des baskets blanches. Il s'habille. Décide d'aller à la cuisine parce qu'il a faim. Il s'assoit à l'indienne devant le réfrigérateur pour manger son poulet. Puis, il prend de la confiture qu'il mange comme ça, pleine la cuillère. Il a mangé trop vite. Il se sent ballonné. Il a envie de vomir. Il décide de sortir de la maison. Dehors, il commence à faire jour. Il se met en route. Il marche pendant des heures. dans le bureau de Jérôme Riquin, via d'Anfort, le médecin-chef Monsieur Henri Roger, et un grand homme fort rude. Le médecin-chef leur dit.
Il a dû se réveiller et partir en pleine nuit. Riquin lui demande. Il n'était pas surveillé? Le médecin-chef lui dit. Si, mais la nuit, vu son état, non. Riquin lui dit. C'est une grande erreur. Vous êtes responsable de sa fuite. Et comment une personne dans cet état ait pu se réveiller, retrouver sa tête et partir? Le médecin-chef lui dit. Le corps était jeune. Il a été congelé très vite. L'enfant leur dit.
Bon, parlons de choses sérieuses. Quelle est la personne que vous avez laissée échapper?
Riquin lui dit. Le corps est celui d'un jeune homme bien et tranquille. Malheureusement, nous avons introduit de l'ADN d'un tueur très dangereux et qui cherche à se venger. L'enfant lui dit.
Ce qui fait que vous avez fait revivre un tueur.
Riquin lui dit. Oui, et dans le corps d'un ange. L'enfant lui dit.
Je vous ai bien dit de ne pas faire revivre des criminels.
Riquin lui dit. C'est un corps qu'on nous avait donné sans nous dire qui il était. Et comme il était en très bon état, nous en sommes servis. C'est après que nous avons appris.
L'enfant lui dit, il va falloir éliminer ce monstre et souhaiter que personne ne sache que c'est de notre faute.
Riquin lui dit, bon, mais comment le retrouver maintenant?
L'enfant lui dit, vous avez la photo du receveur.
Oui,
c'est bien. Faites-le circuler à vos hommes. Et dès qu'ils le voient, qu'on le tue. On n'a pas à laisser un monstre en vie.
Bien, monsieur, nous ferons de notre mieux.
L'enfant dit encore. Et quant à votre médecin-chef, vous êtes révoqué.
Mais je n'y suis pas 100% responsable. C'est ceux qui ont fait le monstre.
Vous êtes responsable de son départ. Allez.
Il se lève et dit.
Messieurs, je reviendrai aux nouvelles. J'espère, c'est que je n'aurai pas des choses désagréables à dire à l'élu.
Et il sort du bureau.
Riquin dit. On nous dit de faire des expériences. On en fait. Mais on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Ce n'est qu'un tueur, au fait. Ce n'est pas un savant ou un politicien.
Le médecin-chef lui dit. Comment le retrouver?
Riquin lui dit. Laissons la police le retrouver.
Bon, après quelques crimes inexpliqués, il sera jugé. Ou tué. Voilà.
Le jeune continue sa route. Il prend petit à petit des forces. Sa peau a une couleur plus normale, ses gestes plus naturels. Il vole pour manger, a des gestes vifs d'un jeune adolescent et l'intelligence d'un homme fait, d'un homme qui semble avoir une intelligence en dessus de la moyenne. Ce qui fait que les deux réunis font un surhomme.
son instinct l'a poussé à aller à Paris, qui semble être sa ville. Il y est arrivé en faisant du stop, en marchant à pied, en prenant le train gratis. Il a semé quelques cadavres derrière lui, des chauffeurs de voiture trop empressés pour lui ou qui lui posaient trop de questions ou qui avaient besoin de dévaliser. Il semble que son cerveau n'ait aucune morale. Arrivé à Paris, il est entré dans un café d'une rue populaire du 14e arrondissement au-dessus du Panthéon. Il y a de la musique de barbarie et le café n'a pas de clients. Il s'assoit à une table et la serveuse va vers lui. C'est une jeune fille dans les 20 ans, mince, cheveux blonds, l'air rieur, habillée d'une jupe courte rouge. Vous désirez à boire un jus de tomate et un café. Elle lui dit, un jus de tomate? Tu veux pas un coca? Non, j'aime pas le coca. Elle s'éloigne pour lui chercher sa commande. Elle le lui apporte. Tiens, merci. Et lui demande, tu n'es pas d'ici, toi? Non. Tu es d'où? Je ne sais pas, partout. Elle hausse ses épaules et lui dit, tu fugues? Non. Elle lui dit, fais attention, il y a un commissariat pas loin, ils ne sont pas commodes. Alors dis-moi d'où tu viens. Il hausse ses épaules et lui dit, je ne sais pas. Tu viens pas d'un foyer au moins? Non. Ma mère est malade? À l'hôpital, et je suis seule. Mon pauvre, mais tu as bien un lieu? Ou coucher, ou vivre? Où vit ta mère? Elle a été expulsée de son appartement et je me trouve à la rue. Elle lui dit, tu ne peux pas rester comme ça. Tu vas te faire prendre. Elle lui sourit et lui dit, je me rappelle mon petit frère. Il la regarde bien, intrigué. C'est vrai? Oui. Mais je peux être... Vraiment, lui? Elle lui dit, je ne pense pas. Il est mort et puis le corps a disparu. Il paraît que c'est fréquent maintenant. Comment t'appelles-tu? Marc. Moi, c'est Jean. Un drôle de nom. Mais ma mère aimait ça. Marc lui demande, comment s'appelait ton frère? Christian. Marc lui dit, ce nom ne me dit rien. Elle lui dit, et pourquoi elle te dirait? Il lui dit, comme ça. Elle lui dit, finis ton verre, je vais te mener à ma chambre. Tu as l'air tellement fatigué. Tu as marché longtemps? Il lui dit, oui, assez. Il termine de boire son jus de fruits et son café. Il se lève, va vers elle. Elle lui dit, viens, et il la suit. Passe par la porte du fond du café qui mène dans une allée sombre. Elle lui dit, ma chambre est en haut, au dernier. Il la suit et monte les étages. Au dernier étage, il y a sur le palier plusieurs portes en bois. Elle lui dit, ce sont des anciennes chambres de bonne transformées en studio. De deux chambres, ils ont fait un studio. Elle ouvre une porte. Entre. Il entre. Ça donne directement sur une pièce avec un lit et un petit coin salon. Il y a une autre porte qui donne dans la cuisine sans d'eau. C'est propre, mais pauvre. Les meubles sont de récupération, années 60. Elle lui dit, « Voilà, c'est chez moi. C'est petit, mais c'est chez moi. Allons à la cuisine. Je vais te préparer un petit quelque chose à manger. » C'est toi à table. Et c'est à toi. Elle regarde dans le réfrigérateur et dit, il y a des œufs, du porté, une pêche, du pain et de l'eau. Elle s'assoit en face de lui. Il mange. Elle sourit et lui dit « Pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas ta casquette? Tu es comme mon frère. » Avec sa casquette, il couchait même avec la nuit. Elle se lève et lui dit « Il faut que je retourne travailler. » Et elle le quitte. Il a fini de manger, se sent bien et décide de s'allonger.
Il va dans la chambre. S'allonge sur le lit.
La digestion le fait dormir de suite. Ses rêves sont rouges, noirs. Il ne sait pas vraiment qui il est. Il ne se pose pas de questions. Il se trouve bien jeune pour tout ce qu'il y a dans sa tête. Puis, il sombre dans le sommeil le plus complet. Il est réveillé par une main qui lui caresse le dos et lui donne des baisers. Elle lui dit « Ça va mon petit poussin, tu as bien dormi ?» Il se retourne vers elle et lui dit « Oui ». D'un geste, elle lui enlève sa casquette. « Qu'est-ce que tu as eu ?» Il ne répond pas. Elle lui dit « Tu es tombé ?» Non, plutôt on dirait que tu as eu une opération. Elle a dû être importante. Qu'est-ce que tu avais comme maladie? Il lui dit, rien. Elle lui dit, on n'opère pas pour rien. C'est encore tout rouge. C'est récent. Il lui dit.
Où ?
Elle lui dit. Opéré du cerveau, c'est grave. Tu as des soins à faire ? Il lui dit. Je ne sais pas. Elle lui dit. Tu t'es pas sauvé d'un hôpital, toi au moins ? Parce que là, c'est grave. Tu étais dans quel hôpital ? Il lui répond. Je ne sais pas. Elle le regarde bien et lui dit. Tu n'aurais pas perdu la mémoire, toi, par hasard ? Je crois que je vais être obligé, c'est de te mener au commissariat. C'est pourtant bien que je le fais, tu sais. Elle se soulève et lui dit, viens. D'un geste brusque, il la tire à lui et la renverse sur le lit. Il se plaque sur elle. Elle a à peine le temps de se défendre que c'est trop tard. Il la maintient bien contre lui. Elle lui demande.
Mais qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi ! Tu es complètement idiot ! Arrête ! Lâche-moi ! Laisse-moi !
Il lui met la main sur la gorge, tout en se maintenant pour éviter qu'elle ne se défende contre elle. Et les mains serrent la gorge, une gorge mince et lisse. Elle gigote de tout son corps. Sa respiration est forte. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.